Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, la Française Christine de Saint-Genois est l'invitée d'Escale. Cette pionnière de l'aviation civile défend depuis plusieurs décennies les droits des femmes. Elle est même devenue, depuis peu, ambassadrice de bonne volonté de la Fondation Globale contre les mutilations génitales féminines.
Mesdames, Messieurs, nous sommes à votre entière disposition pour vous rendre ce vol le plus agréable possible. Bon voyage.
La commandante de bord Christine de Saint-Genois ne cesse d'étonner. Depuis près de 40 ans, elle bouscule les traditions, surmontant les obstacles dans un milieu particulièrement machiste, celui des pilotes de ligne. Dans l'interview qu'elle nous a accordée lors de son passage à New York pour participer à la 55e Commission des Nations Unies sur la condition de la femme, elle est revenue sur sa vocation de pilote d'avion, révélée dès l'âge de 7 ans, mais aussi sur son soutien à la lutte contre les mutilations génitales des femmes. Son témoignage.
Je suis de formation pilote de ligne. Je me suis battue toute ma vie pour les droits des femmes. Et j'ai toujours continué, j'ai fait des projets avec l'ONG, enfin j'ai travaillé avec des ONG. Et je continue, tant que je suis encore debout et deux jambes et bien solide, vous me verrez à l'ONU jusqu'à le jour où je me tairai, ce qui veut dire je serai morte. Donc je continue à me battre pour les droits de la femme. Et dans tous ces travaux durs et très, pas du tout sensibles que j'ai eu dans ma vie, j'ai été touchée terriblement par une jeune femme que j'ai rencontrée à Genève à l'ONU. Une magnifique jeune femme noire, très très belle. Et on se présente, elle parlait un petit peu français, et elle me dit, voilà, je suis présidente d'une association de FGM, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, quand elle a dit que 6 ans, j'ai compris, mais c'était pour moi, bon, oui, ça existe, en bonne européenne, pas trop de connaissances. Et elle me dit, puis qu'elle avait écrit un livre, et j'ai été acheter ce livre, et ça a été le choc total. Elle est mariée, elle a 3 enfants, mais son histoire est extraordinaire. Et c'est le côté sensible, quelque part on a tous un côté sensible, et j'aurais pu faire des tas d'autres choses, mais ça, je dis ça, c'est pour moi. Et quand on m'a proposé, on m'a dit, est-ce que tu vois, on va faire ce projet, etc., est-ce que tu serais intéressée à nous présenter? J'ai tout de suite, oui, absolument. Là, sans aucune limite, je pars pour ce sujet.
Alors ça, c'est pour la première présentation. Donc voilà. Clairement, vous êtes commandante, comme on dit, de bord. Vous avez donc été l'une des premières à piloter des avions et des gros avions aux États-Unis. Vous êtes donc française.
Pas uniquement aux États-Unis. En fait, j'ai commencé bien avant, au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, parce que même aux États-Unis, à l'époque, il n'y avait pas de femmes.
Donc vous avez été l'une des pionnières, en tout cas, en termes d'aviation de ligne. Voilà. Et en quoi votre parcours vous a inspiré, justement, pour pousser à défendre la cause des femmes?
Je crois que c'est l'injustice. C'est injustice horrible de vous dire, vous êtes une, ou n'importe quoi, femme ou qu'on vous fasse des discriminations ou tout autre, la même chose. Parce que vous êtes ceci, vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez pas le droit, ou vous êtes inférieur, ou c'est horrible. J'ai toujours un sens très traîné de la justice. Même toute petite, j'étais infernale, mais j'étais un sens traîné de la justice. Je crois que ça a tenu mon chemin, en fait. J'étais incapable de supporter l'injustice, quelle qu'elle soit. J'ai du mal, même encore maintenant. Donc, à chaque fois qu'on me disait non, je me disais, mais pourquoi? Si je peux le faire, c'est impossible. Ah bon, c'est impossible? Eh bien, je vais le faire. Et ça a été comme ça, sans arrêt. Parce qu'en fait, je viens d'une famille très traditionnelle, où j'aurais dû me marier dans mes rangs, servir le thé à 5 heures, être volontaire à l'hôpital après la messe le dimanche. Je suis la rebelle dans toute sa splendeur, parce que je trouve que c'était injuste. Si j'étais, justement, comme ils disent, avec un rôle partout particulier des femmes, j'aurais été très bonne en, je sais pas moi, en histoire, en géographie, à la couture. Manque de chance, j'étais excellente en maths et en physique, donc on n'est pas ni différents. On a des dons, peut-être, plus ou moins. Et puis c'était facile, maths physique, c'était génial, c'est facile, rien à apprendre, allez, toc. C'est comme ça que je l'ai fait, mais c'est horrible. Moi, et ça, ça me sort de mes gonds jusqu'à maintenant. Ça me donne la chair de poule, ça m'énerve.
Alors, sans vous faire l'injure de parler de votre âge, ça fait quand même plusieurs décennies que vous vous battez justement pour essayer de lutter contre cette injustice. Est-ce que quand même il n'y a pas eu des paliers, est-ce qu'il n'y a pas eu des étapes qui font qu'il y a eu une reconnaissance, notamment les femmes pilotes de ligne, donc il y a eu une évolution et la perception quand même change beaucoup.
Bien sûr. Il a fallu qu'on ouvre la porte. D'où le problème, c'était pas de piloter. On avait tellement annoncé qu'on ne pouvait rien faire. C'est-à-dire qu'on était tellement émotive. Et puis, de temps en temps, à certains temps du mois, on allait perdre complètement contrôle de tout ce qui arrive dans l'avion. Que, enfin bon, c'est des histoires. On l'entend dans tous les métiers, à tous les niveaux, ce qui me fait bien sourire. Enfin, qu'est-ce que c'est dans ça, d'abord? Et puis, le mieux que l'on me dit, c'est, vous comprenez, c'est un métier très dur pour les hommes. Mais le problème pour les femmes, pas tellement, parce que je me sens très bien et ça n'a pas été si difficile que ça. Le pilotage, il n'est pas tellement difficile. Ce qui a été très difficile, c'est de se battre, qu'on les préjugés et d'arracher ce... On l'a arraché. Notre génération, on tapait sur la table. Mais enfin, on a ouvert les portes et il n'y a plus à faire ça. Les portes sont ouvertes. Mesdemoiselles, débrouillez-vous. C'est un superbe métier. Dès que j'ai fait une qualification, j'ai monté le grade dans les avions. Là, c'était un palier. Ah, tiens, elle peut le faire. Ah, puis, flûte, si elle le fait, comme elle m'a dit, elle va le prendre la place de mon fils maintenant. Alors, j'ai eu les réflexions qui ont commencé. En fait, toutes des histoires d'harcèlement, de discrimination. Alors, vous entendez avec une oreille. Ça, je continue mon chemin de toute façon. C'est pas grave. Vas-y, parle toujours. Sauf que j'ai quand même du sexual harassment. J'ai quand même droit à ça. Si je signe le contrat pour vous, j'ai droit à tout. J'ai eu droit à tout ce que vous voulez, vous imaginez et pensez. Je pense que c'est ma bonne petite éducation un peu bornée, cathode, tout ce que vous voulez, qui m'a maintenu dans les bons chemins. Parce que, en fait, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vues arriver. Et tant mieux. J'étais tellement naïve et bête de passer à côté. Enfin, j'avais mon idée, j'avais mes principes et j'ai gardé ça. Et ça, c'est aussi intéressant. Et quand on arrive aux gros avions, bah, après, c'est une question d'habitude. Et puis après, ils ont commencé à en voir une, en voir deux, en voir trois. Et maintenant, bon, ça y est, enfin, faut pas exagérer. Du moins, aux États-Unis, c'est beaucoup plus ouvert que dans certains pays, comme en Italie, c'est le Moyen-Âge encore. J'ai une amie qui a commencé en Italie, qui est commandant de bord, qui m'a dit, si tu savais, c'est le Moyen-Âge ici. En Allemagne, il y a des femmes. J'étais la première prise à Lufthansa et j'ai pas pris le contrat. Bécassine, je n'ai pas pris, j'avais voulu aller faire l'Amérique. Aux États-Unis, j'ai trouvé sur ce pays extraordinaire pour l'appréciation de la valeur des gens. Et j'étais seule, je n'ai jamais eu d'aide de qui que ce soit, personne. Ça m'a pris presque 10 ans pour faire mes diplômes, alors que maintenant ça prend peut-être même pas 2 ans. 10 ans pour tout payer, alors qu'un homme pouvait le faire en 2 ans, 2-3 ans. Moi non, je travaillais le soir, j'étais à l'école d'ingénieur le jour, je travaillais la nuit dans un hôtel, je payais tous mes cours. Tout ce que j'avais gagné, je le dépensais le week-end pour piloter. Enfin bon, il fallait vraiment... C'était ma passion et puis c'était surtout aussi le fait de... Pas, je le veux, je suis bonne et je l'aurai. Voilà.
Alors je suis parti sur Québec Air, on se voit Nord.
Alors, est-ce que justement, donc, on parle de la perception qui a changé, donc, oui, de la hiérarchie, mais est-ce qu'également, commandante de bord, dit aussi une perception des passagers, des clients, est-ce que là également, il y a des regards parfois surpris, est-ce qu'il y a également une intolérance ou parfois même une hostilité?
Non, merci, mon Dieu, ça c'est fini, mais j'ai eu droit ça au début, les drôles de choses, et pas uniquement les hommes, hein, les femmes, c'est ça qui est intéressant. Comment ça, madame? Et qu'est-ce que vous faites là? Bah, je suis en uniforme, j'ai envie de lui dire. Bah, je suis secrétaire, j'ai répondu, parce que c'est quand même pas vous qui allez piloter l'avion. Je dis si. Je dis, alors, comment ça? Mais ça veut dire quoi? Les hommes pilotent plus? Je dis si. Mais vous avez un problème, vous avez peur. Mais... Enfin, des tas de choses bizarres et j'ai le droit à tout ce que vous voulez. Mais enfin, bon, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Maintenant, c'est extrême. Du reste, en Europe, en Amérique, je ne pense pas que ça existe encore. On peut jurer de rien. Mais aux États-Unis, il y a tolérance zéro qui marchera très bien. Au contraire, j'ai eu des applaudissements, je me souviens d'avoir piloté tout un groupe du Club Med. J'allais à Miami, et en sortant de l'avion, ils étaient tous en train d'applaudir. Yeah, yeah, yeah. Oui, il y a un peu de tout, mais non, au contraire, c'est positif. Regarde, il y a une femme assez bien. Puis je me souviens jamais de quand je rentre dans un avion et je vois une femme. Ah, enfin, un cockpit safe, je lui dis, j'en ai... avec un grand sourire, évidemment.
Concernant également donc, cette capacité, lorsqu'on est commandante de bord, on pilote donc, des avions qui vont dans tous les endroits du monde, donc on peut justement comparer. Vous parliez de vos collègues italiennes qui ont parfois des difficultés, vous parliez d'un apprentissage au Moyen-Orient. Est-ce que justement cette évolution aussi, vous l'avez vue et vous avez pu, grâce à votre métier, comparer un peu la situation des femmes sur différents continents? Est-ce qu'il y avait déjà une prise de conscience de ces problèmes bien différents sur différents continents, qu'on soit en Asie, qu'on soit en Afrique ou ailleurs?
Il y a 40 ans, 30 ans, il y avait très peu de notions de droits des femmes encore. Je me souviens une seule chose, quand j'ai commencé à piloter un 707 au Pakistan, dans les années 77-78, et la première femme commandante de bord pakistanaise, c'était l'année dernière. Donc, calculer combien d'années après. Et je ne sais même pas si cette jeune femme a su que j'ai piloté chez eux. C'est fort possible qu'elle ait vu quelque chose. Non, il n'y avait rien. Non, on était vraiment des exceptions. On se pose des questions. Elle n'est pas bien celle-là. Oui, qu'est-ce qu'elle lui prend? C'est venu beaucoup plus lentement. Dès qu'elles ont vu les Américains, un peu en France, c'est tout doucement. Mais il ne faut pas croire que Air France, là, je me souviens, quand ils ont ouvert la porte, qu'ils aient pris les quantités. On prend une. On ne prend jamais une seule personne si on veut vraiment le faire correctement. On prend un groupe. Les Américains en ont pris 10 dans chaque compagnie, ou c'est déjà différent. Alors que dans l'autre pays, c'était une, on en a une, qu'est-ce que vous voulez de plus?
C'était l'exception qui confirme la règle.
Exactement. Donc ça, j'ai pas vu. Au point de vue de droit des femmes, si, parce que moi, j'ai peut-être des avions, mais n'oubliez pas, j'ai dans des contrats très souvent au Moyen-Orient, j'ai passé 10 ans de ma vie au Moyen-Orient. Alors le premier contrat au Pakistan, j'habitais au Pakistan, on était basé au Pakistan. Imaginez-vous que j'ai piloté le Hajj, c'est le pèlerinage de la Mecque. Où j'avais pas l'air de conduire la voiture, mais j'ai piloté les avions. Alors je dis toujours en riant, j'avais les cheveux très courts, j'avais la tête, le visage, pas un petit garçon, mais enfin très jeune, et j'avais un pantalon. Et l'anecdote est que je faisais aussi le refueling. On mettait l'essence dans l'avion. Et j'avais ce monsieur palestinien que je voyais tous les matins et qui me disait bonjour, ça va. Je savais qu'il avait 5 enfants, qu'il était palestinien. Je l'ai vu au moins la moitié du mois, enfin, tout le temps. Et un jour, il me regarde et ça a été avec stupéfaction. Il me dit Inti Bint. Et il met ses doigts sur mes cheveux qui étaient très courts. J'avais pas de boucle d'oreille à l'époque. Il met ses doigts sur les épaulettes et sur le pantalon. Et il me regarde et me dit, c'est pas possible. J'aurais été toute nulle, j'aurais pas vu non plus, je crois. Parce que j'avais des galons, des cheveux courts et un pantalon. Comment c'était ancré. Il m'a plus jamais parlé parce qu'à Saoudi, s'il parlait d'une femme qui n'est pas mariée, il y avait des problèmes. Mais voilà un peu où on était. Mais j'ai toujours été très bien traitée à cette époque-là. Je ne pense pas que ce que j'ai fait il y a 40 ans, je pourrais le refaire maintenant. Je l'ai basé à Saoudi. Je l'ai basé à Jeddah. Pendant un an et demi à Jeddah. J'étais au Yémen, j'ai des gens qui étaient adorables, les gens du sol m'adoraient. Ça dépend comment vous traitez les gens.
Alors, on dit commandant de bord, donc dans oui. le domaine de l'aviation, on dit des escales. Les escales, ça permet aussi de voyager, de comparer. Une fois qu'on s'est posé, quand même, on a quelques temps de repos. Est-ce qu'on peut aussi comparer lorsqu'on est en Asie, lorsqu'on est une fois de plus au Moyen-Orient ou ailleurs? Justement, c'est cette vie des femmes qui est décalée par rapport aux valeurs qu'on connaît ou qui sont prônées, notamment aux États-Unis ou en Europe.
Comme je vous dis, moi, j'étais basée dans les pays. Donc, je restais rarement avec mon équipage. En général, on était deux avions ou un avion, ce qui veut dire trois personnes. Deux bons hommes qui ne pouvaient pas me voir, parce que j'étais une femme, que j'étais la première, qu'elle n'avait jamais vu une, et qui ne voulaient surtout pas que je reste, donc ils me faisaient toutes les misères sur terre. Ils sortaient de leurs avions, ils allaient boire, ils allaient au café, au bar du coin, et ils se racontaient leurs histoires de guerre, leurs femmes, leurs machins, leurs copines, leurs trucs. Je n'avais rien à faire là-dedans. Moi, je partais rencontrer les femmes. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Je trouve ça extraordinaire, voir ces femmes, cette décence, ces femmes qui avaient des vies, enfin, rien à comparer à ce que moi j'avais. Et j'ai appris beaucoup de choses de ces femmes. Au Pakistan, je savais déjà qu'il se passait des choses très drôles pour les femmes. Et quand j'en ai parlé après, on m'a dit que je faisais un peu de l'imagination un peu exagérée. J'ai appris énormément de ces femmes. Je me suis jamais embêtée. On me dit, qu'est-ce que tu faisais, Khartoum, toute seule, il n'y a rien. Effectivement, mais je me suis jamais embêtée. Ils ne comprenaient pas ça. Ils n'avaient qu'à ouvrir leurs yeux, leur cerveau et leur cœur à tout le monde. Ils auraient vu comment on veut voir des choses extraordinaires. Ça, j'ai vu la différence, bien sûr que je l'ai vu.
Où s'en vont les avions quand ils s'en vont? Parfois je crois qu'ils vont chez moi.
Alors vous nous parliez tout à l'heure de votre expérience, de votre rencontre à Genève, donc par rapport à ce problème des mutilations génitales féminines notamment, donc un grand choc, une découverte.
Oui,
donc l'étape d'après, ça a été quoi? Donc une fois qu'on a lu ce livre, une fois que vous avez rencontré cette femme qui vous a beaucoup marqué, c'était tout de suite de faire quelque chose, de s'inscrire dans une action concrète?
Non, pas du tout. Je suis quand même renseignée. J'ai quand même été voir qu'est-ce que c'est comme association, qu'est-ce qu'ils font. C'était un peu limité comme au début. Du reste, c'est toujours limité, je trouve, un peu trop limité ce sujet. Je me suis intéressée, j'ai lu, voilà, mais j'avais rien de concret. Et c'est, on va dire pas par hasard, mais lorsqu'on m'a dit, mais voilà, il y a un sujet, est-ce que... Ah, j'ai dit, mais ne parle pas plus. Ça, c'est absolument, j'attends peut-être l'occasion, j'en sais rien. Est-ce que je me serais allée de moi-même? C'est fort possible, je me connais. Mais là, c'est extraordinaire. Et puis, quand on voit tous ces problèmes, tous ces grands sujets, le sida, etc., tous ces grands symposiums, et quand on voit au FGN, il n'y a presque rien, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ou s'il y a, il n'y a pas de communication. Et le problème, c'est le manque de communication et de cohésion. Et je crois que c'est le sujet de cette Global Alliance.
Alors,
ce qui m'a intéressé du reste.
Voilà. On y arrive à cette alliance globale donc, contre les mutilations génitales féminines. Vous êtes aujourd'hui, donc, on le rappelle, l'ambassadrice de bonne volonté donc, de cette alliance globale. Il y a plusieurs actions, il y a plusieurs objectifs qui sont défendus par cette alliance. Dans quoi vous vous retrouvez? Quels sont les projets qui, d'après vous, sont assez porteurs?
D'abord, la communication. Que tout le monde sache ce qu'il se passe, que l'on puisse avoir un pôle. Et ce n'est pas uniquement sur ce sujet, mais sur beaucoup de sujets. Un pôle central où on puisse avoir toutes les informations, mais de partout, sans compétition, sans blâmer qui que ce soit le plus positif possible. Voilà. Il y a des ONG qui font des travaux extraordinaires. Vous avez le modèle africain qui est excellent. Et vous avez des gens sur le terrain, on ne sait même pas ce qu'ils font. Il faudrait absolument se réunir, qu'on sache tous, parce qu'il est incompréhensible qu'à notre époque, ce ne soit pas éradiqué. C'est traditionnel, non. Ce n'est pas simple. Mais ça peut s'éradiquer. Il y a des exemples sensationnels de pays en Afrique où il n'y a presque plus déjà. Donc, et les autres, on peut le faire, c'est faisable. Et je pense qu'on ne réussira pas à faire grand-chose si on n'a pas toute cette communication complète et toute cette transparence, en fait, de ce qu'il se passe sans évidemment blesser les gens.
Et c'est avec la commandante Christine de Saint-Genois que se referme ce magazine, jamais aussi bien nommé Escale. Escale, un magazine consacré cette semaine au parcours d'une femme exceptionnelle et à son engagement en faveur des droits des femmes et contre les mutilations génitales féminines. Un magazine préparé et présenté par Jérôme Longuet avec l'aimable complicité de Florence Westgaard et de Carlos Macias. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.